16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre, Stéphane Bern.
Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? Tel scapin, c'est ce que je me dis à quelques secondes de découvrir vos questions, Jean-Luc. Bon, là, maintenant, il ne s'agit plus de reculer. Allez, c'est parti, c'est l'heure du quiz, c'est Bern to be alive.
Ne vous en faites pas, ça va très bien se passer, Stéphane. Alors, une question pour Stéphane. On va commencer ce quiz au XVIe siècle. À partir de 1589, c'est le siège de Paris. Il y avait évidemment une effroyable famine. Henri de Navarre, le futur roi Henri IV, finit par pénétrer la capitale en 1594. À cette époque, on a surnommé le pain de la Montpensier un pain fait avec du tissu bouillu. Ça se disait comme ça, à l'époque. Un pain que vous imaginez quasiment immangeable. Est-ce vrai ou est-ce faux ?
Le non, pain de siège était fait avec de la sciure,
c'était
me semble-t-il.
C'était pas du tissu.
C'était pas du tissu ?
Je crois pas. Non, je dirais non.
On vérifie.
Vous avez gagné.
Il est très fort. Le pain Montpensier était le pain fabriqué que les os des cadavres du cimetière,
ah bah oui,
des innocents
oh,
dans le quartier des Halles.
Mais bien sûr, je l'ai raconté.
Vous le saviez, ça.
Mais oui. Oui, mais moi je deviens gaga, j'ai quelques excuses. Hein.
Une fois les chiens, les chats mangés, ouais. Une rumeur invérifiable parlait de cette pratique appelée pain de la Montpensier. Cette dernière, selon les écrits de l'époque, vantait les mérites nutritifs de la recette sans toutefois l'avoir testée. Bon, bah, bon appétit si vous êtes au goûter. Une question pour Clémentine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les services secrets britanniques ont réussi à mettre de la poudre à gratter sur 25 000 uniformes de la marine allemande. Vrai ou faux ?
C'est rigolo, ça. Qui aurait fait ça ? Les services secrets
britanniques.
Je ne vois pas comment les Anglais auraient eu un lien avec la production de tissus. Parce que pendant la guerre de 14, par exemple, c'est les Allemands qui nous fournissaient de l'aniline pour teindre nos uniformes. Et ils ont cessé de le faire vu qu'on était en guerre. Donc je ne vois pas comment...
Donc,
du poil à gratter, non.
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 On vérifie votre réponse.
Vous avez
incroyable
perdu.
Histoire. Bah écoutez, j'accepte avec bonne grâce de perdre parce que je.
Eh oui, ils ont fait ça en octobre 1943. La poudre a déclenché une épidémie massive de dermatite. Tout l'équipage d'un U-boat, c'est-à-dire un sous-marin, a dû rebrousser chemin et revenir au port pour se faire soigner. Alors, c'est-à-dire comment ça s'est passé ? En fait. Les Anglais fournissaient la contrebande norvégienne. La résistance norvégienne s'affairait pour contaminer les uniformes, mais aussi des lits et même du papier toilette. Et là, je dis que ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin.
Ça irrite. Ah oui, bon, c'est incroyable.
Une question pour Stéphane, maintenant. Une question qui va mêler l'histoire et la pédale. Entre 1946 et 1951, sur le Tour d'Italie, un coureur portait le maillot noir. Ça voulait dire qu'il était le dernier au classement. Vrai ou faux ?
Alors, je ne suis pas très bon en cyclisme, il faut le savoir.
Alors qu'en foot,
on le sait.
Oui.
Vous ne vous intéressez pas, hein ?
Non.
Vous n'aimez pas l'idée ?
Non, j'aime pas l'idée.
Oui, parce que ça serait vraiment stigmatisant. Ouais, le pauvre gars, il est déjà dernier. En plus, on lui met un maillot noir comme le mouton noir. Non, ça a quelque chose de tout à fait contraire aux principes évangéliques.
Je dirais non.
Vous diriez non ? On vérifie.
Vous savez. Perdu.
Vous allez voir, l'histoire est folle. En fait, celui qui occupait la dernière place avait un maillot noir. Le problème, c'est que certains coureurs qui avaient abandonné tout espoir de remporter le Tour d'Italie essayaient de l'avoir coûte que coûte ce maillot pour au moins finir avec une décoration. Pour être dernier, certains se cachaient dans des granges, dans des bars ou même se perçaient leurs propres roues. Mais il ne fallait pas qu'ils soient pris parce que sinon, ils étaient éliminés.
Ah, parce que le fait d'avoir le maillot noir, ça permettait d'accéder à une forme de
quitte
visibilité
dans les derniers,
de notre
quitte
notabilité.
Dans les derniers, c'était un souvenir, ça, de toute façon. Et donc, ça devait être le maillot de la honte.
C'est pas bien ça, hein, Stéphane, mettre un maillot noir, nous on n'est pas d'accord.
On va aller parler aux Italiens. Hein. Une question beaucoup plus légère. On va parler des Ceausescu.
Ah.
Vous aimez ça, les Ceausescu ? Clémentine.
Allez-y, posez votre question.
Elle passait son temps dans les pays de l'Est. Hein,
c'est vrai. Mais c'est pas ça. En Roumanie, mais c'est vrai.
Donc dans la famille Ceausescu, madame était assez taquine. Elena Ceausescu trouvait que la jeunesse manquait de dynamisme. Pour elle, les jeunes étaient trop gros. Du coup, elle a décidé, en plein chantier de construction du métro, de supprimer une station. Vrai ou faux ?
Elle a supprimé une station. Alors, elle a supprimé une station à l'extrémité d'une ligne de métro, si je comprends bien.
Entre deux. Elle peut avoir emmuré la station.
Elle était complètement timbrée. Elle est tout à fait capable de... Oui, bon. Non, elle a fait un truc plus marrant que ça, je pense.
C'est déjà bien rigolo.
Non, elle a dû faire un truc bien plus...
Vous êtes sûr ?
Terrible.
Vous êtes sûre, Clémentine ?
Et finalement, je ne suis pas sûre. Tout bien considéré, ma première intuition était sans doute la bonne. Donc oui, elle a supprimé une... Bien sûr, c'est bien connu.
Elle a supprimé... On va vérifier.
Vous avez... gagné !
Mais qu'elle est forte, Clémentine, elle n'avait pas été aidée.
Du tout, ça ne s'est pas vu.
Oh là là.
Non, c'est vrai. Les travaux étaient déjà bien avancés, c'était donc impossible. Les ingénieurs ont donc fait disparaître la station, mais que sur les plans. Ils ont continué à la construire, mais cachée derrière des murs. Et quand le métro a été terminé, les habitants de Bucarest ont protesté, évidemment. Et le couple Ceaușescu a finalement donné son accord pour la station. Les murs ont été abattus et la station a été opérationnelle. Ce qui explique en tout cas encore aujourd'hui l'architecture très étrange de la station Piața Romania.
Ah, c'est étonnant. Mais vous savez que quand ils voulaient donner l'impression d'un pays opulent, on mettait des fruits et légumes en carton-pâte dans les étals. Je trouve que finalement, la station de métro supprimée, c'est pas aussi pittoresque ce qu'ils étaient capables de faire. C'est de fou, mégalo.
C'était quand même bien tordu, hein.
Ah oui.
Il va falloir une question pour vous départager
qui va vous mettre en joie.
Et vous avez tout fait pour ?
Non, pas du tout, Stéphane. Pourquoi dites-vous ça ?
On voit bien votre petit jeu.
Alors, question pour vous départager. Elio Gabal fut un empereur romain avec de l'humour.
Ah oui.
Il était connu pour piéger les convives de ses festins, vous savez quoi ? Avec un coussin pétor artisanal.
Oui, en peau de chèvre, non, en peau de bique.
Voilà. Est-ce que vous me voyez arriver avec ma question ? En quelle année la production industrielle de coussins péteurs a vu le jour ? Je sais que vous êtes un grand consommateur, Stéphane. Dès que vous allez chez les Macron, je sais que vous ramenez toujours votre coussin.
Je ne vais pas. Non, il n'y a pas
moi
ça.
Moi, je dirais 1893.
Alors, je vais vous donner un petit indice qui ne sert à rien, mais quand même.
Une échelle, quand même.
Non, mais le premier coussin péteur avait un nom, il s'appelle Whoopi.
Ah, si c'est Whoopi, ça doit être du caoutchouc, ça doit être contemporain de l'invention de la chambre à air, non ? Je dis 1856.
1856, d'un côté.
1895.
Et évidemment, j'ai tout fait pour le faire chuter, mais il ne tombe jamais. C'est un roc. C'est lui qui a gagné puisque c'était 1931.
1931
sur le catalogue Johnson Smith & Company.
Incroyable qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour avoir un coussin péteur. Non mais comment a-t-on fait ?
Moi j'ai un coussin péteur mais c'est pas la même chose.
Il est écrit en toutes lettres sur le catalogue pour vous donner envie d'acheter le Whoopi. Il produit des bruits qui peuvent être mieux imaginés que décrits. C'est difficile de faire le
cousin Peter. Ça tombe un peu à l'eau, là.
Oui, c'est ça.
Moi, je préfère le cousin Peter de Stéphane.
Et le cousin Peter, le premier, a été vendu par correspondance. Et ça, vous pourrez dire que vous l'avez appris dans Historiquement Vôtre.
Merci Jean-Luc. Voilà, vous nous cultivez.
Europe 1, Historiquement Vôtre.